moi, je vais dire que tout a changé puisque je suis une infirmière du quartier opératoire et que pour faire face au Covid en soins intensifs, on a transformé toute une partie de salle de réveil en soins intensifs et on nous a, nous, formé infirmières de quartier opératoire à devenir des infirmières de soins intensifs en une heure. Donc voilà, donc le boulot que je fais depuis le Covid n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Je suis infirmière salle 2, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assiste les anesthésistes et les chirurgiens à réaliser leurs interventions. On aide à endormir le patient, à installer le patient, donner tout le matériel voilà, des interventions et veiller à ce que tout se passe bien pendant l'intervention et l'après. Donc ça, c'est mon boulot normal d'infirmière salle d'op. Et maintenant, je suis infirmière de soins intensifs. Là, c'est la surveillance de patients, alors qu'ils sont soit Covid ou pas, mais qui normalement sont dans des unités de soins intensifs. Comme il y avait deux unités de soins intensifs, on en a créé deux supplémentaires pour le Covid. Et pour ces unités de soins intensifs, il a fallu du personnel. Et ça, c'est le personnel du quartier opératoire qui s'est transformé en personnel de soins intensifs. Et donc, on n'est pas du tout préparé à ça. Pour le moment, on en a 40, je pense, qui sont aux soins intensifs et une bonne centaine qui sont dans les étages. Donc, même chose, les étages ont été transformés aussi puisque les services d'orthopédie, ce qui ne se fait plus, les services de clinique de jour, etc., ont été fermés. Certains services ont été transformés en services COVID. Et même chose, le personnel qui se trouvait, par exemple, dans les services d'orthopédie ou de clinique de jour, eh bien, se retrouve dans les services COVID. Donc, à tous les niveaux, le personnel a dû changer pas sa manière de travailler, mais en tout cas, c'est une autre destination de travail et un autre boulot. Donc, la première étape, quand le plan MASH, qui s'appelle maintenant le plan PU, a commencé, on a arrêté toutes les interventions à l'hôpital. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on tourne généralement aux alentours de 120 interventions par jour. Donc, ça veut dire que ce sont autant de lits qui sont occupés, minimum un jour, parfois plusieurs jours. Et donc, au départ, on a arrêté tout le programme opératoire pour éviter de remplir des lits et pour permettre de vider des lits. Donc, il y a une période où on avait dans l'hôpital 200 lits qui étaient vides et donc prêts à accueillir des patients COVID. Je fais des nuits depuis le début du COVID. Donc, le boulot d'infirmière de jour et de l'infirmière de nuit est quand même différent. Donc, moi, je fais principalement des nuits. Alors, si j'ai choisi de faire des nuits, c'est parce que même si on a beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus calme dans le sens où il y a moins d'énergie négative. Il faut savoir qu'avec ce Covid, aux soins intensifs notamment, comme je te dis, il a fallu trouver des infirmières de soins intensifs, mais il a fallu trouver des médecins aussi. Et donc, les patients sont surveillés par des médecins qui sont des anesthésistes, en fait, qui sont aussi réanimateurs, mais ce n'est pas leur boulot de s'occuper de gens en soins intensifs. Ce qui fait qu'en journée, il y a énormément de monde, énormément de personnel infirmier, de kiné, de médecin. Et moi, c'est toute une énergie négative que je fuis. Moi, je commence mon boulot à 19h30. Alors, comment on démarre une nuit aux soins intensifs? Eh bien, on a d'abord un rapport de tous les patients qui va nous expliquer pourquoi le patient est là, COVID ou pas, parce qu'il y a trois unités de soins intensifs COVID, mais il y a maintenant aussi une unité de soins intensifs non COVID, parce que les gens continuent à être malades. Et donc, ceux-là, il faut les soigner aussi et il faut éviter de les mélanger avec des patients COVID. fais principalement les soins intensifs non-COVID, ou en tout cas, les gens ne sont pas là pour le COVID et n'ont pas encore été diagnostiqués. Parce qu'il y a ce problème aussi, c'est que on diagnostique pas les gens et donc on se rend compte parfois 3 jours après qu'un patient dont on s'est occupé était COVID, mais seulement on l'avait pas testé, on n'avait pas les résultats. Et je pense qu'on ne teste pas d'emblée. Pourquoi? Parce qu'il manque du matériel de protection en suffisance pour s'occuper des patients COVID. Et donc, le fait de ne pas le savoir permet d'imaginer que les gens ne sont pas COVID et que donc, il ne faut pas fournir au personnel les masques, notamment ces fameux masques FFP2 pour s'occuper des patients. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc la journée commence par un rapport des patients, de leur pathologie, de leur constante, de leur traitement. Donc c'est un rapport qui dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, tout au long de la nuit, toutes les 3 heures, on va aller au chevet du patient, refaire toutes ses constantes, surveiller ses paramètres, sa tension, sa saturation en oxygène, vérifier ses perfusions, donner les médicaments s'il y a lieu, faire des prises de sang, des gazométries, les interpréter et en fonction de ça, communiquer au médecin et à partir de là, on va ajuster les traitements ou les perfusions. Et donc, on va faire ça toutes les 3 heures. Quand on fait la nuit, c'est principalement ça. La journée, je veux dire que le travail est un peu le même, si ce n'est qu'en plus, il y a tous les soins d'hygiène le matin, parce qu'il faut faire les toilettes des patients. Et puis en journée, il y a les kinés aussi. La journée est rythmée par les repas aussi, pour ceux qui savent s'alimenter. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il n'y a pas la nuit. Et donc, par rapport à ça, une grosse majorité de l'équipe préfère travailler dans le service COVID parce que là, ils sont sûrs qu'ils seront protégés. Et que les patients ont tous la même pathologie. Et donc, par exemple, donc pour nous qui ne sommes pas des infirmières de soins intensifs, et bien finalement, une fois que tu t'es occupé de quelques patients, c'est toujours la même chose. Ils sont tous COVID, c'est quasi tous le même traitement. On les met quasi tous sur le ventre et ils sont tous intubés et les soins sont finalement, il y a 7 ou 9 patients, mais 7 ou 9 patients qu'il faut tous quasi traiter de la même manière que dans un service de soins intensifs non COVID. Eh bien, tu as d'autres pathologies, tu as une hémorragie cérébrale, tu as une hémorragie digestive, tu as des choses différentes non COVID. Et donc voilà, donc là on considère effectivement que le patient ne vient pas pour le COVID, donc on ne se protège pas pour le COVID. Voilà. Alors que nous on le réclame, hein. Alors que nous on le réclame. Par rapport aux moyens de protection, il faut savoir qu'au début ça a vraiment été la grosse bagarre avec la direction parce qu'on voulait même nous retirer les simples masques chirurgicaux. Donc ça, finalement, maintenant, on a accès. Alors, ces fameux masques FFP2 sont des masques qui sont sous clé. Il y a toute une procédure pour pouvoir obtenir un masque. Et ces masques qui ne peuvent normalement être portés que quelques heures, eh bien, on les porte pendant 5 jours. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de notre journée, on les emballe, ils sont envoyés à la stérilie, où donc là, ils sont stérilisés, mais surtout, ils sont décontaminés. Et puis le lendemain, on retrouve nos masques et on les utilise pendant 5 jours. Alors, quand on les utilise de jour en jour, on voit qu'ils sont, qu'ils s'abîment, qu'ils se détériorent. Et donc, on n'a aucune sécurité par rapport à l'efficacité de ces masques une fois qu'ils ont été lavés 5 fois. Alors évidemment, on nous dit qu'ils filtrent toujours autant, etc., mais on n'en a aucune preuve et tout ce qu'on sait, c'est que ce sont normalement des masques à usage unique. Donc voilà ce qu'on nous demande de faire. Et on met par exemple des blouses de protection, blouses de protection qu'on met au-dessus de notre uniforme et qui normalement doivent être éliminer chaque fois qu'on a soigné un patient. Donc, quand on va 4-5 fois au chevet du patient pendant la nuit, ben, normalement, on devrait chaque fois mettre une nouvelle blouse et la jeter. Eh bien non, on garde notre blouse pour toute la nuit. Ça veut dire probablement des erreurs parce qu'on sait qu'on se contamine principalement lors du déshabillage. Bien, le fait ici, on enlève notre blouse et puis 1 heure après, on la remet. Donc, c'est certain qu'il y a des erreurs et c'est à ce moment-là qu'on risque d'être contaminé. À côté de ça, quand on est au boulot, même si avant de commencer, on est stressé parce que personne n'a envie de l'attraper, mais de manière générale, quand on en discute dans l'équipe, eh bien, une fois qu'on y est, on y est. Et donc, enfin, quand on soigne le patient, on ne pense pas au fait, voilà, qu'on risquerait d'attraper le Covid et que donc on va pas faire ci, on va pas faire ça, on va pas l'aspirer. Donc, on fait voilà, comme si c'était un patient lambda, quoi. Voilà. Je veux dire, moi, je suis infirmière depuis 27 ans. Voilà, le fait qu'il y ait cette maladie, bon ben ok, ben ça fait partie du deal et des risques. Alors maintenant on parle du Covid, mais je veux dire, il y a 20 ans, il y avait le HIV. Nous, on s'occupe quand même de patients qui ont le HIV, on s'occupe des patients qui ont des hépatites B, qui ont des hépatites C, qui ont des infections. On est souvent en contact avec la maladie qui peut être contagieuse, et ça, on le sait. Voilà, moi par rapport au fait que je sais que j'aurais pas pu faire autre chose qu'être infirmière, le fait qu'il y ait ce Covid, bah je continue à aller bosser et je vais certainement pas rester chez moi. Ça ne me fait que me conforter et heureusement qu'on est là. Voilà, la seule chose, c'est que les gens s'en rendent compte maintenant parce qu'on en parle plus. Ah oui, les infirmiers, les héros, etc., etc. Mais on fait ça toute l'année. On fait ça toute l'année, travailler dans des conditions difficiles et ben ça ne change rien, sauf que maintenant on en parle. Mais par rapport à mon boulot et ma manière de regarder mon boulot et d'aimer mon boulot, ça ne change rien. Si ce n'est que ben là, on fait quelque chose et pour une fois, le public le reconnaît. Pour une fois, ce qu'on fait est reconnu par la population. Et le reste du temps, on fait pareil, mais tout le monde s'en fout. Donc maintenant, on a des gens en soins intensifs depuis 3-4 semaines, finalement. Et ces gens, alors il y en a quelques-uns qui ont déjà été détubés, extubés. Mais ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que les gens sont stables, c'est-à-dire qu'ils sont intubés, ils sont sur le ventre la majeure partie du temps, à peu près 16 heures par jour. Et en fait, ces gens sont stables. Mais stable, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où ça n'évolue pas. Mais donc, ça n'évolue pas vers le pire, mais ça n'évolue pas vers le mieux non plus. Ça reste stable et on a l'impression que ces gens seront encore là dans 15 jours, toujours dans le même état. Mais on n'a en tout cas pas enfin, on ne le sait pas non plus parce que tous les morts qu'il peut y avoir, si ce n'est pas dans ton service, ben, tu ne vas pas le savoir. Alors, on a eu des morts déjà dans l'USI Covid. Voilà, dont on a beaucoup parlé, c'était un musulman. Bon, ben voilà, ce qui est horrible, c'est que ces gens doivent mourir seuls, parce qu'il n'y a personne à côté pour leur tenir la main. Et donc, ici, par exemple, ce patient qui est décédé, il y a une semaine, eh bien, toute l'équipe s'est mise, autour de lui. On avait dans l'équipe un infirmier musulman, il a mis une prière musulmane. Et voilà, c'était un moment très très fort pour l'équipe et pour le patient qui, c'est vrai, n'était pas avec sa famille, mais qui n'est pas mort seul. Voilà, parce que ça fait partie de notre boulot aussi. La mort fait partie de la vie et quand on est infirmier, ben ça fait partie de notre boulot, la mort et tout ce qu'il y a autour et l'accompagnement de quelqu'un en fin de vie, que ce soit le Covid ou pas. Et on ne laisse pas quelqu'un mourir seul, et d'autant plus s'il n'y a pas la famille tout près. Et c'est vrai que moi je pense à papa, on est exactement à 1 an enfin, dans cette période-ci, il y a un an, il était hospitalisé. Il aurait passé trois mois tout seul dans une chambre. Je pense qu'il y a le Covid, mais il y a aussi tous les gens qui sont en fin de vie, que ce soit par maladie ou parce que c'est la fin de la vie, et qui sont tout seuls pour ça. Et après cette mort, il y a tout ce qui est, il y a l'enterrement, etc. Je vous dis, il n'y a pas plus de 10 à 15 personnes. Je pense que pour le processus de deuil, pour la famille, ça doit vraiment avoir une influence négative. De ne pas pouvoir faire son deuil parce qu'on n'a pas pu accompagner la personne, on n'a pas pu la voir quand elle était morte. Et je pense que dans la population, il va vraiment y avoir des gens, enfin les psychologues, ils vont avoir du boulot, hein, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être bien d'avoir laissé leur mère ou leur grand-mère mourir toute seule, que ce soit dans un home. Quand on voit ce qui se passe dans les homes, ça c'est vraiment horrible. Tous ces pauvres vieux qui meurent tout seuls, mais ça veut dire aussi toutes ces familles qui doivent être mal d'avoir laissé leur vieux mourir tout seul. J'en ai discuté la nuit, une des dernières nuits où j'ai un infirmier qui travaille aussi dans un home, hein, parce que les infirmiers gagnent tellement bien leur vie qu'il y en a beaucoup qui font deux boulots, et qui nous expliquait qu'il y avait 14 patients là dans son home qui étaient décédés. Et en fait, au départ, personne n'avait rien. Et puis, il y a un des soignants qui a été touché. Et voilà, il y a 14 patients qui sont morts, 14 petits vieux qui sont morts. Ce qu'il nous disait, c'est que voilà, il continue à s'en occuper, mais il est heureusement dans un home où il y a les moyens de protection. Je pense qu'il y a beaucoup de homes où ils n'ont vraiment rien. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants. Voilà, alors je pense qu'on ne les laisse pas croupir, mais... voilà, tous ces pauvres vieux, ils peuvent même plus sortir de leur chambre, ils sont isolés dans leur chambre, ils se retrouvent plus dans la salle de séjour, la salle de télé, etc. Ça doit vraiment être très très difficile pour eux, surtout les petits vieux, souvent psychologiquement, mais voilà, ils sont en fin de vie, ils sont pas au top. Et voilà, même tous ceux qui n'ont pas été atteints et qui s'en sortiront, seront probablement touchés par le fait d'être restés. Enfin, imagine-toi rester pendant 2 mois dans une chambre de 15 mètres carrés en ne voyant juste qu'une infirmière 3 fois par jour pour faire ta toilette et t'apporter ton repas. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Il y a le home, mais il y a aussi toutes ces infirmières à domicile. Les infirmières à domicile qui, même chose, doivent aller soigner les patients déjà parfois dans des conditions pas terribles et qui, elles, n'ont même chose, aucune aide, aucun accès à des masques, à des gants. Et c'est, voilà, elles doivent se débrouiller, se faire des masques en tissu et prier pour que ça passe pas, quoi. Alors, je vais te dire que, donc, après 27 ans, je viens seulement de me syndiquer. Et je me suis syndiquée au début du Covid parce que j'ai toujours été contre les grèves et contre, voilà, tous ces trucs-là. J'ai été syndiquée tout au début de ma carrière et je me suis retirée du syndicat le jour où on m'a obligée de faire grève. J'estime que tu as le droit de grève, mais tu as aussi le droit du travail. Voilà, j'avais pas du tout accepté le fait que, le service soit fermé et qu'on m'oblige à faire grève. Et donc voilà, j'étais plus du tout syndiquée. Et là maintenant, au début du Covid, j'ai été voir une déléguée syndicale. Je dis comment je vais me syndiquer. Parce que je pense qu'après cette crise, tout le secteur de la santé doit se révolter et va plus que probablement se révolter. Et on doit profiter, entre guillemets, d'avoir la population derrière nous pour faire entendre ce qu'on a à dire par rapport... au fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour la santé, que la santé, c'est la population, et qu'on se rend compte bien maintenant que s'il n'y a pas les moyens dans la santé, ben voilà, les gens vont en crever. Et donc, par rapport à ça, oui, je me suis syndiquée parce qu'il va y avoir des mouvements de grève, et c'est la première fois dans ma carrière que je ferai grève au finish, s'il faut. Syndicat, j'ai demandé la déléguée syndicale du service, me demande pas de quelle couleur politique elle est, j'en sais rien. Je pense que les syndicats par rapport à ça, par rapport à la santé, sont de toute façon toujours en bloc et les syndicats sont unis. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pas compliqué, c'est plus de moyens. pour la santé, mais ça veut dire aussi pour la population. La revalorisation des barèmes salariales, ben bon, voilà, hein, ça c'est quand même triste quand tu vois. Tu sais, Robin travaille maintenant au Deleuze, il travaille 30 heures semaine, il a le même salaire qu'une infirmière qui commence à travailler. Alors tant mieux pour lui. Mais l'infirmière, elle s'occupe des patients, elle travaille un week-end sur deux, elle fait des nuits, elle travaille jusqu'à 22 heures, elle a fait 4 ans d'études. Il y a le même salaire que quelqu'un qui commence au Deleuze et qui sort de Réto. Je crois que quelque part, là, il y a un problème quand même. Mais ça, voilà, moi, je vais dire que ce n'est pas ça la revendication principale au niveau salarial parce que ça, tu le sais, je le savais avant de commencer à faire mon boulot que j'aurais des horaires de merde et un salaire de merde. Et si tu choisis d'être infirmière, tu sais bien que ce n'est pas pour gagner de l'or en bas. Donc, le salaire... C'est pas tellement ça, moi, mais c'est vraiment les moyens, mais c'est les moyens humains aussi, dans le sens où on est beaucoup trop peu nombreuses. La nuit, il y a une infirmière pour s'occuper d'un service de 28 patients, enfin, je veux dire, c'est inadmissible. C'est un manque de moyens dans ce sens-là, je trouve, surtout. Le fait que les gens nous disent « vous êtes des héros », etc., ok, c'est très bien, mais on n'est pas des héros que pendant le Covid, hein. On est des héros tout le temps alors. C'est ça le problème, c'est ce que je te dis, c'est que maintenant les gens se rendent compte qu'on a besoin des infirmières et qu'on fait quand même un boulot dingue. Hein. Ah ben tiens. Ben, par exemple avec mes enfants, cassant des coups des masques depuis le début. Donc, elle s'est inscrite sur une assoce, je ne sais pas très bien laquelle, qui donc lui apporte les tissus et le matériel. Et donc, elle coud les masques et puis elle les rend à cette association. Et cette association distribue ces masques en tissu, je ne sais pas où, dans des maisons de repos, dans certains hôpitaux. Parce que je pense que dans les hôpitaux, tous les personnels administratifs, etc., il y en a certains qui portent des masques en tissu. Mais pour pallier au manque, parce que voilà, ce sont des masques qu'on va pouvoir relaver et réutiliser. Et donc Cassandre, à côté de ça, elle a fait des masques aussi, elle en a donné beaucoup, et maintenant elle commence à les vendre, et ça je trouve qu'elle a raison. Bon, elle vend 3 euros le masque, hein, je veux dire, le but c'est vraiment pas de se faire de l'argent là-dessus. Robin, au début, il m'a dit « Ah maman, moi je vais rentrer un certificat et je ne vais pas aller travailler, j'ai beaucoup trop peur. » J'ai dit « Non Robin, tu ne peux pas. Parce que tu fais un travail de service à la population et donc tu es obligé d'aller travailler. » La seule différence par rapport à nous, du milieu médical, c'est qu'eux ne l'ont pas choisi. Quand tu es caissier au GB, tu n'imagines pas qu'un jour, ta santé pourrait être en jeu à cause de ton métier. Tandis que nous, on le sait. Et je veux dire, le fait d'être en danger par rapport à mon métier, bah oui, bah ça fait partie, comme je t'ai dit au début, ça fait partie du deal. Par contre, voilà, tous ces caissiers, etc., eux, ça ne fait pas partie du deal. Et je trouve qu'eux devraient être valorisés, effectivement, par une prime de risque, parce que ce sont des risques qu'ils prennent. Ils prennent les transports en commun pour aller bosser. Ils bossent. Alors, on nous dit qu'il faut mettre des masques, qu'il faut mettre des gants, etc. Encore faut-il bien les utiliser dans les grandes surfaces, mais eux sont tout le temps là-dedans. Et au début ou juste avant le confinement, quand tu as vu le monde qu'il y avait dans les grandes surfaces, mais tu imagines comme ces gens ont été exposés sans aucune protection et eux, ils n'ont pas signé pour ça. Nous, les infirmiers, en tout cas dans notre hôpital, si on tombe malade, que ce soit le Covid ou autre chose, on n'a pas notre salaire garanti, on tombe sur le chômage technique. Et ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Parce que généralement, quand tu tombes malade, le premier mois, tu es à charge de ton employeur. Et donc ici, ben voilà, moi, par exemple, qui courais, ben je n'ose plus faire de jogging parce que j'ai peur de me casser un pied ou de me tordre une cheville et de ne plus savoir aller bosser. On n'a plus droit au salaire garanti. On se retrouve d'office sur le chômage. Et ça, je trouve que ce n'est pas correct. Que ce soit le Covid ou autre chose. Alors, le Covid, on ne saura jamais prouver qu'on l'a attrapé à l'hôpital. Mais bon, on a quand même augmenté les risques. Par contre, c'est considéré comme une maladie professionnelle, paraît-il. Mais je n'en sais pas plus par rapport à ça. Les infirmières qui sont touchées par le Covid, c'est considéré comme une maladie professionnelle. Mais non, je ne sais pas du tout... Quelles sont les démarches, est-ce qu'il y a des preuves à fournir, est-ce que ceci, cela. Ah, mais là, j'ai une semaine de congé. Donc, je reprends le 25. Donc, c'est ça qui est fou chez nous. C'est qu'ils refusent qu'on laisse tomber nos congés. Ils nous obligent à récupérer nos heures. Et par moments, on n'est pas assez sur le terrain, mais ils ne veulent pas faire revenir les gens qui sont en congé. Je pense qu'ils ont vraiment peur de devoir payer les gens. Voilà. Et peur de devoir payer des heures supplémentaires et que... voilà, il y a par exemple à Saint-Pierre, tous les congés ont été annulés jusqu'à fin juin pour tout le personnel. Mais chez nous, c'est l'inverse. On ne peut absolument pas supprimer ces congés. Voilà, ça c'est la politique de la direction. Et comme on s'en sort, bah, puisqu'on s'en sort, comme on s'en sort toujours de toute façon, voilà, c'est que c'est bien. Voilà.